Manon Becker.
Bonjour. Vers une interdiction uniforme des téléphones portables dans les écoles biennoises, c'est ce que demande une motion interpartie. Les Verts, le PSR et le SP Jusso veulent que les règlements scolaires soient modifiés avec les principes suivants. Les téléphones portables seraient interdits à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. L'utilisation serait autorisée uniquement à des fins pédagogiques. Philippe Weber est à l'origine de cette motion. Le conseiller de ville vert nous en parle.
La motivation première, c'est une question de santé publique. Les différentes études qui ont été faites à ce propos montrent que une utilisation accrue du téléphone portable à l'école porte atteinte à la santé mentale des enfants. Donc, c'est pas seulement lié à l'école, hein, mais en particulier à l'école. Avec une interdiction. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'utilisation du téléphone se fera dans les temps de pause à l'école. Et puis, si l'usage est permis dans les temps de pause, les enfants n'ont plus la capacité de mémoriser les apprentissages qu'ils ont faits. Ils sont aussi dans une situation de perte d'attention en cours. Et donc, les performances scolaires vont considérablement chuter aussi à cause de ça. Il convient de prendre des mesures pour changer ça, en fait.
Ça y est, Playtime est de retour. Le festival de musique, danse et performance débute aujourd'hui et se tient jusqu'au 24 janvier à Bienne. Derrière la création des spectacles, les étudiants de la Haute École des Arts de Berne. 3 productions seront présentées pendant ce mois de janvier. Pour les plus petits, place à Boombox. Les étudiants du Bachelor 2 ont entièrement créé l'histoire ainsi que la musique, les chansons, les chorégraphies et le décor. Reportage.
Je suis Margot, j'ai 19 ans et je suis étudiante en bachelor de musique et mouvement à l'HKB.
Vous mettez en place le spectacle Boombox, comment est-ce que vous l'avez imaginé ?
Je me suis un peu imaginée par rapport à ce qu'on fait les autres années aussi. Donc je voyais de la musique, des moments un peu chorégraphiques, du texte qui est drôle, qui est simple, qui est rapide. L'idée, elle est vraiment partie du matériel des caisses. Comment on utilise des caisses, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de scènes différentes, enfin de décors différents, et que ce serait intéressant que dans notre histoire, en fait, les décors changent avec ces caisses qui nous donnent cette liberté-là.
Je m'appelle Elodie, j'ai 38 ans et j'étudie en ce moment à la HKB où je fais un bachelor en musique et mouvement.
C'est la première fois que vous mettez en place un spectacle comme celui-ci ?
Oui, et notre classe aussi. C'est vraiment le gros projet de deuxième année. Et il y a vraiment énormément de choses qui sont nouvelles pour tout le monde.
Et les enfants pourront s'attendre à quoi finalement ?
Il y aura de la super musique, des moments drôles, de la danse, un mille pattes, plein de caisses en bois qui vont se déplacer dans tous les sens, donc ça va être super.
Je m'appelle Franziska Meyer et je suis docentine et professeure à l'Haute École de musique et mouvement, enfin de la HKB de Berne-Vienne.
Qu'est-ce qui change en comparaison des années précédentes ? Finalement, le festival, il se recrée chaque année.
Les contenus sont différents, bien sûr, parce que les élèves sont différentes, mais le cadre reste le même. On a encore, depuis 2 ans, des alumni qui font un projet à la Bourque, en plus. Ça, c'est assez nouveau. Qu'on demande les anciennes étudiantes de faire leurs pièces qu'ils sont en train de travailler en dehors de l'école. La pièce des enfants et les solis, ça c'est tous les années comme ça. Après, c'est clair, ça change énormément par rapport aux étudiants. Des fois, on a des grands groupes, des fois, on est vraiment... Voilà, maintenant, c'est 7 étudiantes. Cette année, par exemple, c'est plein de musique. Un peu de moins de mouvement danse, et alors du coup, ça change les contenus de l'histoire, et tout ça, ça change beaucoup. Oui.
Est-ce que finalement, ces festivals, c'est aussi une manière pour la Haute École des Arts de Berne d'attirer peut-être de nouveaux élèves ?
Oui, c'est une invitation aussi pour les élèves francophones, parce qu'il y a beaucoup de postes libres aussi plus tard, dans les écoles de musique, par exemple, après, il y a beaucoup de possibilités de travail. Alors du coup, on aimerait bien attirer un peu plus d'élèves francophones aussi. Parce que nous, on est la seule formation en Suisse francophone, à part Genève, l'Institut Dalcroze, qui est un petit peu différent que nous. Dans la Suisse romande, ça sera beau d'avoir un peu plus d'élèves.
La première de Boombox a lieu ce mercredi au Centre Théâtre Jeune Public de la Grenouille à Bienne. C'est le dernier moment pour admirer la crèche aux 500 à Porrentruy. Après cette semaine d'exposition à l'église Saint-Pierre, les quelques 1500 santons vont retourner dans les cartons. L'aventure se termine ce soir à 18h. L'un des créateurs du projet, Maurice Bianchi, dresse le bilan de cette édition jurassienne.
Nous sommes vraiment enchantés, Créa et moi, d'être venus pour la première fois dans le Jura et d'avoir eu un accueil vraiment extraordinaire de la part des gens. On a rencontré des gens formidables. Comme toutes les années, on fait des super rencontres et surtout une expérience un peu particulière cette année puisque nous avons eu l'occasion donc de passer sur France 2 le jour de Noël dans l'émission Le Jour du Seigneur. Et ça, bien sûr, que ça a attiré beaucoup de personnes qui sont venues de France et ça nous a permis de faire de nouvelles rencontres. On a beaucoup de visiteurs depuis le nombre d'années qu'on fait la crèche aux 500 qui nous suivent. Alors, on a eu des gens qui sont venus depuis Genève, il y a eu des gens qui sont venus depuis Suisse allemande, des Français qui sont venus, j'ai accueilli un couple qui venait de Briançon, hein, donc c'est pas la porte à côté. Et puis au niveau chiffrage des visiteurs, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on les a pas vraiment comptés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a estimé les jours de forte affluence où il y avait plus de 2000 visiteurs. Si on fait une moyenne très grossière, je pense qu'on peut estimer le nombre de visiteurs environ à autour des 50 000 visiteurs pour cette édition.
Et pour accueillir ces nombreux visiteurs, quelques 80 bénévoles ont été mobilisés. Sylvie Girardin a veillé sur la crèche une dizaine de jours et a toujours autant de plaisir à répondre aux interrogations des visiteurs.
Il y en a qui disaient quel est le rapport avec les cinq sens, des questions par rapport à l'aspect sonore ou à l'odorat. Si vous allez vers les fontaines, on entend l'eau couler, ou il y a le sanglier à la broche qui tourne, on entend tourner. Depuis que les rois sont arrivés, il y a la myrrhe qui est dans la crèche. Donc là, encore cet après-midi, les enfants sont venus me demander où c'est qu'ils pouvaient sentir quelque chose. Alors je les ai envoyés vers la crèche pour sentir la myrrhe. Sinon, il y a de la lavande. Moi, ce qui m'a frappé à la deuxième visite, c'est alors l'odeur du foin, par exemple. Et il y en a qui me disent, oui, on n'a pas vu Marie, on n'a pas vu Joseph, ils sont où? Notamment le 23, ben, je leur ai dit, allez voir du côté de l'auberge, Joseph est en train de demander une chambre. On a l'impression de vivre les choses, qu'ils vivent les choses. Et d'être à leur contact, ça nous donne aussi du baume au cœur, puis de pouvoir montrer ça aux visiteurs, c'est fabuleux. On a l'impression d'être un peu hors du temps, puis on est avec les gens, on est bien. C'est un moment, c'est paisible, c'est plein d'émerveillement.
La prochaine édition de la crèche aux 500 se tiendra dès la fin de l'année au temple réformé de Gland. Une association pour soutenir financièrement les proches des victimes de Crans-Montana, Swiss Hearts, a été créée par un groupe de parents touchés par le drame. L'objectif est de créer un fonds centralisé qui puisse redistribuer l'argent aux familles en fonction de leurs besoins, expliquent ses fondateurs au Matin Dimanche, que ce soit des coûts de transport, d'hébergement ou d'hospitalisation. Cette association à but non lucratif n'entend pas se substituer aux assurances ou aux fonds publics et privés déjà existants. Le traité est qualifié d'historique. L'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur ont signé hier au Paraguay un accord de libre-échange. Cette démarche donne naissance à l'une des plus grandes zones de ce type au monde. Elle représente 30% du PIB mondial et concerne plus de 700 millions de consommateurs. Ce traité était en négociation depuis 1999. Il suscite des inquiétudes. Pour ses détracteurs, l'agriculture européenne risque d'être mise à mal par des produits moins chers et pas forcément respectueux des normes de l'UE, faute de contrôle suffisant. On passe au sport. Les skieuses helvétiques sont toujours loin des meilleures en vitesse. Déjà en retrait hier lors de la descente à Tarvisio, aucune Suissesse n'est parvenue à entrer dans le top 10 du Super G qui est encore en cours dans la station italienne. La meilleure d'entre elles est Johanna Ehlen qui pointe au 13e rang. Après le passage des favorites, c'est Emma Eicher qui mène le bal. L'Allemande possède 27 centièmes d'avance sur l'Américaine Lindsey Vonn et 94 sur la Tchèque Esther Ledecká. Côté masculin, Loïc Meillard est bien placé après la première manche du slalom de Coupe du Monde de Wengen pour offrir un nouveau podium au public suisse. Le skieur d'Eremans est actuellement deuxième à égalité avec le Norvégien Henrik Kristoffersen. Ils pointent tous les deux à 40 centièmes d'un autre Norvégien, Atle Lik Lee McGrath, qui a dominé les débats. La première manche a été marquée par des écarts importants et de nombreuses éliminations, dont celle du vaudois Marc Rocha et du genevois Tanguy Neff, qui nous fait part de sa déception.
Ouais, je pense que j'étais bien parti pour un top 5 provisoire, je dirais. Il y avait des bonnes choses, j'aurais voulu mieux rentrer dans le mur et bien sûr pas faire la faute à la double. Mais ouais, c'est un peu frustrant parce que voilà, je sais que j'avais toutes les clés là et j'ai pas bien exécuté.
Dans l'air d'arrivée, plusieurs skieurs ont relevé que les conditions de la piste n'étaient pas très bonnes. Une neige très changeante entre les différents secteurs. Une voie s'est élevée plus haut que les autres et Tanguy Neff a son avis sur laquelle.
Pas mal de skieurs, donc Henrik Kristoffersen qui ne parle pas mais qui crie sur les organisateurs, c'est ça que vous voulez dire? C'est Henrik, hein. Il essaie d'avoir son 100e podium, donc on va le laisser faire ses petites crises. Mais en général, il est dangereux quand il crie, donc nous, on essaye de pas trop l'énerver. Mais moi, je me suis concentré sur ma course. C'est vrai que voilà, c'est des conditions un peu spéciales, mais j'ai l'impression qu'on s'habitue un peu trop sur les conditions d'entraînement qu'on a, qui sont quasi tout le temps parfaites, en fait. Et on se dit, ok, c'est un peu différent, puis ça nous crispe un petit peu. Et ça, c'est en tout cas le cas de moi aujourd'hui, je pense. Et il n'y avait vraiment pas grand-chose, il fallait simplement attaquer. Et ouais, Atlé, c'est un bon exemple. C'est un gars qui arrive à attaquer dans toutes les conditions, toutes les pistes. Moi aussi, assez normalement. Donc ouais, ça pique un peu.
Des propos recueillis et par notre envoyé spécial à Wengen, Lidiane Gena. Les conditions devraient encore évoluer pour la deuxième manche. Outre Loïc Meillard, Daniel Yule et Mathias Seaton qui ont pris respectivement les 17e et 23e rangs seront au départ dès 13h. Le HCBN perd du terrain sur le top 10 en National League. Giflé 6-1 à Fribourg, les hockeyeurs ceylandais accusent désormais 2 points de retard sur la 10e place de Berne, qu'il a emporté après prolongation à Zurich. Hier soir, le HCB a rivalisé 40 minutes avec le 2e du classement, avant d'encaisser 4 buts dans les derniers tiers. Les Biennois sont tombés sur une redoutable attaque fribourgeoise qui a marqué 6 buts sur 25 tirs cadrés, soit un taux de réussite de 24%. Mais l'attaquant Jérémy Bertschi ne veut pas se cacher derrière le réalisme de Gauthéron. C'est selon lui Bienne qui a déjoué.
Réaliste, je pense pas, parce que sur les 25 tirs, ils ont peut-être 6 breakaways et encore 3 ou 4 de contre 1. Donc c'est clair que si 10 des 25 tirs, c'est les gars qui sont seuls dans le slot, non, c'est pas qu'ils ont eu du réalisme, c'est juste qu'ils ont marqué, quoi. Donc ouais, les 40 premières minutes, on était là. Le premier tiers, je pense, on prend un peu 2 buts qu'on aurait pu éviter, mais on était là dans le jeu. Deuxième tiers était bon, on revient aussi. Et puis le troisième tiers, on leur laisse des occasions et des boulevards. Et puis quand on le paye cash.
Vous arrivez à l'expliquer, cette entame de troisième tiers, elle vous descend un peu moralement?
Alors certes, c'est peut-être le seul but de la soirée où, en guillemets, c'est un but qui arrive dans le jeu, quoi. Les autres, c'est des buts où on fait des grosses erreurs. Puis c'est clair qu'on est arrivé motivé, puis il a fait mal. Mais on devrait quand même être capable de rebondir, surtout si on fait un match correct. Jusque-là, à 3-1, il reste 20 minutes à jouer, enfin 19 minutes à jouer, il n'y a rien qui est fini. Et je dirais pas qu'on a baissé les bras, mais on ne peut pas leur laisser autant de chance parce que, soi-disant, on veut marquer un but et du coup, on laisse derrière tout ouvert, quoi. On a ce problème depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis la saison passée, et il est toujours là. Donc, je sais pas trop quoi dire, il faut juste qu'on sorte les pouces du cul et puis qu'on arrive à jouer ces 60 minutes.
Jérémy Bertschi au micro de Jérémy Pignard. Le HCBN a une semaine pour préparer un autre déplacement périlleux à Lausanne vendredi prochain. Le HC Tramelan n'a pas pu rivaliser avec le leader incontesté de Première Ligue. Il s'est incliné 6-2 à Martigny hier soir en ouverture du Master Round supérieur. Dirigé pour la première fois par Patrick Glanzmann après le licenciement cette semaine de l'entraîneur Lucien Ramseyer, les requins étaient déjà menés 4-0 après le premier tiers. Ils sont revenus à 2 longueurs à la mi-match grâce à Thibaut Henry et Jonas Brossard avant de laisser à nouveau filer les Valaisans. Le HCT reste 6e à 2 longueurs de la 4e place. Tenant du titre, Lucas Bridgegui a manqué une 3e médaille européenne à Sheffield. Le patineur artistique chafouzois a terminé 4e à 1,37 points du podium hier au Royaume-Uni. L'or est revenu au géorgien Nika Egadze, 6e après le programme court. Il a manqué son libre. 2e suisse en lice, le jeune zurichois de 18 ans, Ehan Weiler, a reculé de 6 places pour finir 21e pour sa première compétition continentale. Météo, c'est une après-midi ensoleillée qui vous attend au-dessus de 800 à 900 mètres d'altitude. En dessous, stratus et brouillard sont à prévoir sur le Seeland et dans les Bas-Vallons. Les températures sont de saison. Merci pour votre écoute et bon appétit.